Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International en ce jour, ce mardi 24 août, et pour évidemment évoquer des sujets football. Et on commencera en Espagne avec le FC Séville en tête de la Liga. 2 victoires en 2 journées avec une équipe solide. Les Andalous pourraient-ils profiter de cette année où les gros clubs espagnols sont un peu moins brillants pour conquérir le championnat? Ou Barça, Real et Atlético feront-ils encore régner leur loi en Espagne? Avec ou sans Kylian Mbappé d'ailleurs. La Ligue 1, toujours sous le choc des violences lors de Nice-OM. Quelle solution pour faire cesser les troubles qui parasitent les matchs du championnat français? La réponse de la LFP est très attendue. Fera-t-elle date? La Ligue 1, sur le terrain, sur la pelouse, c'est Andy Delors, nouvel aiglon, c'est Shaqiri et Emerson en renfort chez les Gaunes plutôt déroutants et des Monégasques au seuil de la Ligue des Champions, ou pas d'ailleurs. Et pour évoquer ces sujets, notre espagnol de notre équipe, mais il est là toujours physiquement présent, il n'est pas au téléphone. Bonjour François David.
Bonjour Annie, je pars plus,
Vous ne partez plus, je suis bien ici.
Non mais je suis bien aussi à Barcelone.
Vous allez voir qu'à Barcelone, finalement la douceur de vivre après la rentrée, oui, mais avec Depay.
Avec Depay, oui, avec Memphis.
T'as perdu Messi, t'as gagné Depay, t'as la chance.
Bonjour Naïm Moniol.
Salut Annie, salut à tous.
Tout va bien?
Ça va et vous?
Et puis un revenant, il a terminé ses vacances et il est avec nous. Bonjour Gilles Verdez.
Bonjour.
Tout va bien?
Très bien, j'étais à La Spezia en Italie. Oui. Ils sont bons, hein?
Ils sont bons.
Ils ont une belle équipe, ben oui, tout
vous
à fait.
Vous étiez chez les champions d'Europe?
Absolument.
En titre.
Et
hein,
oui, ils sont fiers.
Ils sont fiers.
Ils peuvent.
Bon. Vous étiez là pour la première semaine, vous êtes là, vous êtes revenu donc de vos vacances. David Finzel, fidèle au poste, ainsi que Laurent Salerno à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Carlos, Rafa Mir, En-Nesyri et peut-être là pour Séville, la balle de match avec Rafa Mir, la balle du 1-0 pour Rafa Mir sur le poteau, la reprise, Eric Lamela.
Lamela, goal, ahora sí.
Goal. 93e minute de jeu, Séville et ses recrues dans le temps additionnel pour une victoire.
Goal de Séville.
Ils occupent la première place de la Liga. C'est sans doute peut-être un fait historique, mais en tout cas, ils s'en souviendront parce que ça n'arrive pas toujours d'être devant les gros d'Espagne. Mais après 2 victoires face au Rayo Vallecano, puis Getafe, le FC Séville a pris les rênes du championnat. Alors, hein, on s'excite pas, on est à la 2e journée, mais quand même, ils sont à égalité avec les Colchoneros et devant donc le Real et le Barça qui ont été freinés par des résultats nuls. Cette équipe de Séville, on va s'y arrêter quelques instants, est-elle capable de faire mieux cette année que son habitude finalement de finir derrière les trois grands d'Espagne? Un effectif sans grande star mais plutôt respectable, on va y venir. Et puis, eh bien, ce nouvel apport, celui d'Eric Lamela, l'Argentin recruté du côté de Tottenham, est déjà auteur en 2 journées de 3 buts.
Je suis très heureux de réussir mes premiers matchs, mais on doit s'améliorer, on peut jouer encore mieux, il y a les joueurs pour ça. Heureusement, on a bien commencé la saison, c'était important, mais c'était que le début. C'est sûr qu'on va lutter pour rester en haut.
Lamela, François David, déjà bien intégré dans un bel effectif quand même. Je vais donner quelques noms, même s'il y a des noms qu'on connaît qui sont là depuis longtemps ou qui sont des anciens de la Liga, Rakitic, Jesús Navas, Ocampos, hein, l'ancien Marseillais, Jules Koundé, le tout jeune international français, Papu Gomez,
Papu.
Luke De Jong, En-Nesyri aussi, l'Égyptien. Marocain. Et le gardien aussi, l'autre marocain, c'est pour ça Bounou, le gardien. Est-ce que c'est une équipe, alors avec Julen Lopetegui, qui est véritablement
bon
un très bon entraîneur, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous surprendre en Espagne, François, cette saison?
Ça nous surprend toujours, Séville, parce que c'est une équipe qui, chaque intersaison, fait 15 départs, 15 arrivées, toujours. Ça, c'est la méthode Monchi. Mais ils prennent toujours des joueurs intéressants.
Directeur sportif
qui est une vraie star en Espagne. Mm-hmm. Hein, Monchi, c'est la référence ultime des directeurs sportifs. Alors, il y a
on
des ratés.
On en parle même en France.
Il y a des ratés. Mais aussi, il y a des super coups. Eric Lamela, c'est un super coup. Il était en bout de banc à Tottenham. On en parlait à l'OM, d'ailleurs, il y a quelques années, si jamais je me souviens bien. C'est une équipe qui va finir dans les quatre premiers, encore une fois, je pense. Maintenant, pour être au-dessus des trois grands, je pense qu'il leur manque un joueur ou deux vraiment différents, comme pouvait l'avoir avant, bah, comme là, le Real Madrid avec Benzema, comme l'avait avant le Barça avec Messi. On va voir ce qu'ils ont cette année. Il leur manque peut-être un joueur qui marque la différence par rapport aux autres quand l'équipe ne va pas bien. Et on le voit d'ailleurs en Coupe d'Europe. C'est une équipe qui va jamais au-delà des quarts de finale. On le voit aussi en Liga, ils ont du mal à battre.
Non, ils ont fait une finale qu'ils ont...
De Ligue Europa. C'est le roi des Ligues Europa, on le sait.
On le sait.
Mais la Ligue des Champions, c'est au-dessus. Et quand ils jouent contre Atlético, Real et Barça, c'est encore au-dessus.
Et puis, cette année, en Ligue des Champions, ça aurait pu passer face à Dortmund. C'est vraiment, il y a eu des histoires un peu d'arbitrage avec des pénaltys retirés 5 minutes après un but. On l'avait fait en direct, c'était n'importe quoi. Non, je suis assez d'accord. Séville, disons que s'ils auraient pu, par exemple, l'année dernière, leur passer devant, parce que le Real et le Barça étaient nettement moins bons. Finalement, ils ne l'ont pas fait. C'est toujours une équipe qui a toujours eu des beaux effectifs, des bons entraîneurs, qui a toujours fait, mais qui n'a jamais réussi à faire, si vous voulez, 10 mois pleins, et surtout à jongler entre le championnat et la Coupe d'Europe. Ils ont toujours eu des très beaux joueurs, les Canouté, les Fabiano, il y a eu vraiment des beaux attaquants, des très beaux joueurs. Et d'ailleurs, la plupart des gros clubs vont souvent chercher les joueurs là-bas. Mm-hmm. C'est un vrai vivier de beaux joueurs. Mm-hmm. Mais prenez par exemple des équipes comme l'Atlético, comme le Real, comme le Barça, c'est une régularité, c'est pas forcément mieux joué, c'est pas, il y a pas plus de plaisir à regarder le Real, le Barça que le FC Séville, c'est 8 mois dans l'année, on voit la même chose, c'est beau à regarder.
Oui, il y a une sacrée ambiance dans leur stade,
mais c'est pas régulier.
Et tout, c'est vrai.
Parce qu'à un moment donné, pour faire partie des très grandes équipes, faut jongler à la fois sur le championnat et sur la Coupe d'Europe.
Gilles, cette équipe de Séville, qu'est-ce qui lui manquerait, le panache, l'argent ou alors aussi l'expérience ou la régularité comme dit Naïm?
La folie d'un joueur, je suis d'accord, aussi la folie dans le jeu, parce que c'est un 4-2-3-1 très bien organisé, très bien léché. Je trouve que ça manque un peu de surprise. C'est bien rodé. Là, il y a un super début de saison face à des équipes qui sont peu redoutables, il faut bien le dire.
Et en plus, c'était Rayo Vallecano qui était promu. Hein.
Oui, c'était un peu poussif quand même. Moi, je pense quand même que cette année, les trois grands ne seront pas au rendez-vous. Alors, il y en aura peut-être un, il y en aura peut-être deux, mais il n'y en aura pas trois. Soit Barcelone va être orphelin de Messi et ne s'en remettra pas. Le Real dépend quand même beaucoup de Benzema. Et le troisième, l'Atlético Madrid. Peut-être qu'à un moment quand même, ce cycle qui s'éternise va s'éteindre. Donc, ce beau cycle. Donc, je pense qu'il y a une place pour eux. Je les vois bien, moi, finir dans le trio de tête. Je vous dis pas être champion, mais dans le trio de tête, avec cette solidité défensive, si Koundé reste. Mm-hmm. Si Koundé reste. Parce que Chelsea, c'est quand même pressant.
Voilà.
Là, ce serait une énorme perte.
Oui. Eux, ils ont essayé de recruter un certain Corona. Alors, son nom faisait à chaque fois rire. Et je me souviens de Nabil qui en parlait tout le temps, ce Colombien.
De Porto.
Finalement, ça s'est pas fait, des histoires de contrats compliqués, de transfert.
C'est toujours compliqué que Porto. De toute façon, pour sortir les joueurs, toujours très compliqué. En plus, il a pas eu sa nationalité portugaise, je crois que c'était une des conditions. Ils ont pris l'Argentin, le latéral droit qui jouait à Independiente, son nom m'échappe. Montiel, ouais. Excellent joueur. Voilà, ça c'est typique Séville. Voilà, ils prennent des joueurs qui peuvent s'adapter tout de suite.
C'est faute de moyens. C'est-à-dire, ils essayent de trouver des très bons joueurs méconnus.
Ils ont une méthode. Ils vont chercher dans des championnats comme la France, comme le Portugal, comme la Suisse.
Oui, ou et en après, Angleterre, les un peu abandonnés des bancs.
Voilà, et après, ils revendent très cher en Angleterre. C'est leur méthode. Il leur manque, je pense, moi, un stade du 21e siècle, tout simplement, parce que le Sanchez-Pizjuan, c'est le même qu'en 82 avec l'équipe de France, Batiston, etc. Il leur manque ça, il leur manque cette puissance financière derrière, peut-être un investisseur derrière. Mais Séville, c'est un peu, c'est une petite famille. On rentre pas.
Ouais,
on
ils ont peut-être pas
comme
envie
ça,
non plus voilà. De se vendre comme certains autres clubs, si j'ose parler ainsi, n'est-ce pas? En tout cas, on a cherché et c'est vrai qu'il faut remonter à 2004 pour trouver un champion d'Espagne qui ne soit pas le Real, le Barça ou l'Atlético.
C'est Valence.
C'est Valence. Valence qu'il avait fait en 2002 et en 2004 et la Corogne qu'il avait fait en 2000.
En 2000, Ouais. Et à la fin des années 90.
Donc c'est vrai qu'en Espagne, les places sont très chères.
C'est une hégémonie. Et puis c'est tellement un séisme quand Barcelone ou le Real, voire l'Atlético, ne sont pas champions que ça devient un événement majeur. Mais ceci dit, pour moi, là, il y a pour la première fois depuis longtemps,
il y a une fenêtre.
La ruine des uns peut faire le bonheur des autres.
Sur toute la période dont vous parlez, l'Atlético n'a pas toujours fait partie du top 3. Attention, hein, c'est une équipe qui a aussi eu beaucoup de difficultés. Donc c'est souvent un championnat qui s'est joué à deux.
Oui, mais ces dernières années, c'est assez régulier qu'il soit.
Oui, parce que il y a une hégémonie, le Real et le Barça, il y a une puissance financière, il y a des équipes, il y a une tradition, il y a tout ce que vous voulez. Mais à côté de ça, regardez le nombre de clubs qui ont fait des finales européennes ou des demi-finales européennes. T'as quand même Villarreal, t'as eu Valence, tu as eu l'FC Séville, tu as eu l'Espagnol Barcelone. On a eu des clubs comme ça, ou des demi-finales.
C'est pour ça que derrière les grands, il y a aussi des clubs espagnols qui...
Villarreal, c'est le meilleur exemple, le champion d'Europe l'an passé.
Le championnat d'Espagne, on compare toujours le championnat d'Espagne et le championnat d'Angleterre, lequel est le meilleur d'Europe footballistiquement. Là, je parle purement de football. L'Espagne, ça a toujours été au-dessus de l'Angleterre. L'Angleterre, ils ont, on va dire, l'impact, ils ont les grosses machines, il y a une concurrence effrénée, ils ont 5-6 équipes. Mais d'un point de vue purement footballistique, Gilles, je parle de jeu. Moi, je parle pas de tirer en l'air et de se jeter dans la boue. Je te parle de jouer au foot. L'Espagne a toujours été au-dessus de l'Angleterre.
Il n'y a pas que de la boue quand même en Angleterre. Là, on est quand même dans les réductions. C'est un peu réducteur.
Et
on tire pas qu'en l'air en Angleterre. Non, je suis pas d'accord parce que en Angleterre, la grande différence pour moi, c'est que, sauf exception, tous les matchs sont disputés. Tous les matchs donnent lieu à une adversité. Alors qu'en Espagne, quand vous avez tous les matchs, quand on prend le championnat, les petits Anglais peuvent rivaliser avec les grands. En Espagne,
c'est pas vrai que les petits Anglais peuvent rivaliser avec les grands. Les petits Anglais sont pas champions d'Angleterre, excuse-moi.
Ah non, ils sont pas champions d'Angleterre. Mais sur un match, c'est toujours disputé.
Oui, mais
en
je vais dire quelque chose.
Très vite des 6-0, des
8-3. Je vais te dire quelque chose, Gilles. Gilles, je vais dire rapidement quelque chose. Prends le nombre de Barça-Real ou de Real-Atlético, de Barça-Atlético, les chocs du championnat d'Espagne sont toujours, en grande majorité, des très beaux chocs. Moi, les chocs de foot anglais, je les fais en face. Je peux te dire que tout le monde te dit en Angleterre, il y a 30 chocs par an. Oui, mais il y en a 25 qui sont nuls. 25 qui ressemblent à rien.
Et puis c'est beaucoup plus serré, je pense, qu'il y a quelques années. Effectivement, Gilles, moi, quand j'allais au Camp Nou, je voyais des fois des 8-0, des 7-0. Maintenant, on voit plus ça. Il y a des équipes super bien organisées. Et je trouve, moi, en plus, si on parle niveau cette fois effectif de club, je trouve que toutes les équipes espagnoles, elles sont. Il y a toujours des bons joueurs, des joueurs qui vont faire. Je regarde Elche. Elche, c'est bête, mais ils prennent Benedetto de l'OM. Ils prennent Mojica, qui était tercel colombien. Séville, on en parlait. Getafe, c'est pas mal.
Même des équipes qui jouent le bas de tableau jouent bien au foot. Levante, alors Levante, là, c'est pas mal depuis un an. Mais Levante, oui. Depuis un an, mais c'est une équipe qui globalement a souvent fait l'ascenseur entre les deux. C'est une équipe qui joue toujours bien au foot. Osasuna, c'est une équipe qui joue bien au foot. Retafe, c'est une équipe qui joue bien au foot. Il y a toujours des beaux joueurs. Et d'ailleurs, souvent, les gros clubs vont chercher dans ces clubs-là pour se renforcer.
Regarde, Brighton, première ligue, ils ont pris Cucurella de Retafe pour 18 millions d'euros. Là, ils ont fait sauter la clause. Donc,
bon, vous voyez que les petits Anglais sont meilleurs que les petits Espagnols puisqu'ils leur volent les joueurs. Vous voyez ce que je disais ?
Ils ont plus d'argent surtout.
Ils ont plus de droits télé. On évoquait donc ces trois grands sur lesquels pèsent évidemment beaucoup d'interrogations. Alors le Barça a fini par tomber dans le piège, on a dit, de Bilbao. 1-1 face à l'Athletic, c'était à Bilbao, donc c'est jamais simple, mais grâce à Depay, on a sauvé les meubles. L'Atlético lui avait gagné contre Elche justement, et puis on a eu le Real. Le Real qui est en train d'essayer de sécuriser son effectif. D'abord, on a renouvelé Benzema et là, on vient de renouveler Federico Valverde, l'Uruguayen milieu terrain. Mais Carlo Ancelotti, vous allez l'entendre, lui, ce qu'il met en avant, eh bien, c'est son attaque. À l'écouter, on a l'impression que c'est une attaque de feu.
Je ne peux pas vous dire combien de minutes chacun va pouvoir jouer, mais je pense qu'il y aura de la concurrence. On a une bonne attaque avec Bale, Hazard, Vinicius, Benzema, Jovic qui a fait une bonne rentrée aussi. Je vais pouvoir évaluer tous ces joueurs et j'espère pouvoir leur donner le temps de jeu qu'ils méritent.
Est-ce que c'est vraiment une attaque de feu à l'heure actuelle, François David?
C'est pas mal quand même. Hazard, Benzema et Bale. Bale, en plus, il n'avait jamais été aussi bon que son Ancelotti. Je me souviens, la Decima, il faisait partie prenante de l'équipe.
C'était il y a combien de temps?
Il y a 2014. Mais il a toujours bien fonctionné avec Ancelotti, qui sait comment le prendre. Bale est spécial, mais quand il a plein rendement... Il est vraiment bon. En plus, là, Vinicius commence à se montrer.
Il met des doublés, Vinicius,
il a mis un doublé,
merde.
Rodrigo.
Il a mis 3 buts aussi, comme Lamela.
C'est une équipe. Oui, c'est une attaque de feu. Alors, peut-être qu'il y aura un autre joueur qui va arriver le 31 août, on sait tous qui c'est. Mais pour l'instant, non, Ancelotti, il est bien. Mais effectivement, je partage l'opinion que Naïm. En défense, c'est moi ça.
Moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que même Mbappé n'y irait pas, le secteur offensif du Real est de qualité. Et puis, il faut pas oublier qu'ils ont joué. Il n'y a plus Varane, il n'y a plus Ramos. Et puis, au milieu, ils ont encore Modric, ils ont Toni Kroos, ils ont Valverde. Isco revient dans la rotation. Et Isco, c'est un peu comme Bale. Quand il est un peu chouchouté par l'entraîneur, c'est un beau joueur. Derrière, un club comme le Real part avec Nacho Militao en défense centrale. Enfin, peur.
Gilles, l'attaque de feu.
Ah oui, alors je n'y crois pas du tout. Et dans le discours, Ancelotti est un entraîneur. Alors parmi les entraîneurs politiques, lui, c'est le roi. C'est-à-dire que vous ne le verrez jamais critiquer un effectif qu'il a à sa disposition. Sinon, ce serait se critiquer lui-même et critiquer le président. Alors là, c'est impossible pour lui. Mais ou alors il part, hein, comme il l'avait fait au PSG. Mais il critique pas. Mais
ouais, il l'a fait au Bayern aussi.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que dans son discours, il égrène une liste de noms. Il les cite comme ça. À la limite, il peut les mettre sur le marché en disant. Disant, s'il le faut, je les ferai jouer quelques minutes et on pourra les revendre. Mais c'est faux ce qu'il dit. Il n'a pas une attaque de feu. Si le Real est à fond sur Mbappé, c'est parce qu'il leur faut un grand nom, que le recrutement a quand même été timoré et qu'à part la prolongation de Benzema, il n'y a pas énormément de choses pour soulever les passions. Donc Ancelotti, il s'adapte, mais en même temps qu'il s'adapte, il se dit, oula, pourvu qu'Mbappé vienne.
Justement, Mbappé, c'est vraiment, François David, le feuilleton de cette fin de mercato en Espagne. La presse de Madrid en parle chaque jour, hein, je me trompe pas. Elle spécule évidemment sur son avenir. Il reste 6 jours de mercato, hein, donc on a encore le temps d'avoir 6 fois des unes. Aujourd'hui, par exemple, en une de As, alors on parle beaucoup de portes parce que on a ce titre Mbappé à la clé. Là, j'avais la tienne et Mbappé. Alors que Marca titre, le PSG ouvre la porte à Mbappé en reprenant une information d'RMC France, n'est-ce pas, qui assure que le jeune attaquant aurait refusé de re-signer à Paris. Alors, quel crédit accorder à nos confrères espagnols? David Finzel est allé regarder la télé espagnole, un programme très fameux qui s'appelle Chiringuito, et voilà ce qu'ils ont passé il y a quelques heures.
Kylian va s'asseoir en el PSG.
Reste à Paris.
Kylian va signer Real Madrid cette temporada.
Kylian, reste à Paris.
Kylian, quieres ir al Real Madrid.
Paris,
Kylian, quieres ir al Real Madrid. La prochaine temporada, vas a moverte.
Alors, on a un reporter ou un supporter, j'en sais rien, un espagnol.
C'est très flou,
qui hurle en disant, il aperçoit Mbappé à l'image et il dit, Mbappé, est-ce que tu vas venir à Madrid? Et quelqu'un à côté, qui doit être un supporter aussi,
c'est ça,
fait semblant de traduire peut-être, mais dit, Kylian reste à Paris, Kylian reste à Paris. Donc, on a ce deux trucs. C'est pas très journalistique comme document. Est-ce que ces confrères surenchérissent, veulent vendre du papier, ou est-ce que vraiment il y a un feuilleton Mbappé du côté du Real? Parce qu'on dit qu'il n'y aurait eu aucune offre encore.
Non, pour l'instant non, mais le Real Madrid est habitué à dégainer très tard.
A oublié d'envoyer des fax, on se souvient aussi, n'est-ce pas?
Bah oui, avec
des
Réas. Hein, mais ils sont habitués aussi
trop tard.
Gareth Bale, ça c'était fini 31 août. Je me demande si Modric aussi, c'était pas fini 31 août. De Gea, sans ce fameux fax, il aurait été au Real Madrid. D'ailleurs, Keylor Navas aurait jamais fait la carrière qu'il aurait fait au Real Madrid pour un fax. Pour un fax.
De quoi ça joue pas grand-chose.
Et,
ou pas?
Oui, mais évidemment.
Ils ont des vraies infos.
Ils ont des infos, ils sont très proches de Florentino. De toute façon, si tu veux travailler au Real Madrid ou être proche du Real Madrid, il faut être proche de Florentino Pérez, sinon au revoir. Ils t'accrédit plus pour les matchs, ils sont contre toi. Et donc, ils ont des infos, je pense, moi.
Vous êtes contre eux.
Pardon?
Vous, en étant à Barcelone, vous aimez bien?
J'ai pas d'ennemis, mais je pense, moi, qu'ils espèrent toujours que le Real Madrid va faire une offre dans les derniers jours, de compter que Mbappé va faire pression en interne ou même publiquement, ce qui serait le Graal pour eux. Mais je pense que ça va être compliqué cette année de sortir.
C'est une histoire
il
de
manque, il manque quand même le grand oui d'Mbappé. Souvenons-nous que Pérez a toujours, quand il faisait glisser un petit mot à Zidane, dis-moi oui, mets-moi ton oui sur le papier. Zidane avait dit oui. Il manque le oui que Pérez réclame de tout le monde.
Mais Mbappé ne dit pas oui parce qu'il n'y a pas l'argent en
oui,
face.
Mais s'il fait Mbappé sans avoir eu le oui qu'il exige toujours, ou publiquement, ou implicitement, ou que Mbappé dise les yeux dans les yeux à son président, je m'en vais. Si Pérez réussit à faire Mbappé sans avoir eu ce grand oui, là, c'est le coup du siècle pour lui. Mais non, parce qu'Mbappé l'a pas formalisé totalement.
Parce qu'il l'a pas dit sur les caméras de Canal ou de Bein, qu'il l'a pas dit. Il l'a dit les yeux dans les yeux. De toute façon, tout le monde sait qu'il va s'en aller. Tout le monde le sait, le clan a dit à Leonardo, on s'en va. Le problème aujourd'hui, c'est réunir l'argent.
Non, le problème, c'est quand?
Et c'est quand surtout?
Quand vous aurez réuni l'argent. C'est à un moment donné, c'est un coût, Mbappé. C'est combien? C'est 180, 200 à l'achat, sans parler du salaire, des machins.
C'est 120, non. 150. Là.
Non, ce sera pas 120. 120, Mbappé, le prix de Griezmann ou de Dembélé ou Coutinho.
Un an de contrat, ce sera 150.
Il a un an de contrat.
Un an de contrat, 150.
Et alors, ça change un prix quand même.
Moi, je suis plus pour Naïm. Moi, je pense que s'il le vend, ce sera le prix d'achat. Et le prix d'achat, c'était
180.
Allez dire à Nasser qu'il va se séparer d'Mbappé pour 120 millions.
Moi, je dis rien à Nasser. Ne vous inquiétez pas.
Annie, juste pour revenir sur la presse, le seul problème de la presse espagnole qui est très talentueuse, c'est qu'ils sont entre guillemets un tout petit peu entre les titres à la solde d'un club. C'est-à-dire que non seulement il faut fonctionner avec le club, mais ils font marcher les intérêts du club un peu avant les intérêts de leurs lecteurs. C'est-à-dire que la presse barcelonaise va détruire le Real. Voilà, ils pressent un tout petit peu. Donc ils font un peu, ils rejouent un tout petit peu le rôle d'intermédiaire parfois dans les transferts, sans toucher d'argent.
Et puis, moi je me souviens d'un épisode, c'était quand Neymar devait peut-être revenir au Barça il y a 2 ans. Moi, j'étais à Paris, envoyé spécial pour une chaîne espagnole, et il me disait, mais vous, les Français, mais vous êtes ternes. Nous, on est quand même plus, on pose des questions, on rentre dedans. Vous, une petite question en conférence de presse et c'est fini. Moi, c'est ça qui m'avait marqué.
Et alors, du coup, vous posez des questions plus hargneuses.
Moi, j'ai appris un petit peu à fonctionner comme eux. De toute façon, pour survivre là-bas, on est obligé. Mais je reste français. Et c'est vrai qu'eux, ils comprenaient pas que nous, on soit, ils ont un terme so-so. Ce qui veut dire terne,
trop mesuré. Mesuré,
voilà.
François, si vous avez l'info, vous nous la donnez immédiatement en direct, là. Ouais. Vous nous téléphonerez.
Peut-être une
vous n'êtes pas soso, pas... vous balancez. Hein.
Moi, je suis pas soso, Et j'aurais peut-être une info tout à l'heure, mais pas pour l'Espagne.
Bon, alors on voit justement la suite de Radio Foot, parce qu'il y a encore l'actualité.
C'est la mauvaise réaction pour Dimitri Payet. Il peut être exclu, Payet, avec cette attitude. Évidemment, c'est lui qui reçoit depuis tout à l'heure des projectiles.
Là, ça sent dangereux.
Comme une onde radio, n'est-ce pas, vous écoutez la radio, et bien l'onde de choc du derby raté à Nice se propage. Alors que les images de ces 90 minutes surréalistes de l'arrêt du match sont revues, étudiées à la loupe, des premières décisions sont quand même tombées. Alors d'abord, il y a eu l'arrestation d'un jeune homme soupçonné de violences physiques sur le terrain, qui est donc sous les verrous pour l'instant. Et puis le préfet des Alpes-Maritimes, qui a déclaré que devant la gravité des incidents survenus, et sans attendre les sanctions de la Ligue de football professionnel, eh bien, il a décidé de fermer la tribune populaire sud où les incidents ont éclaté. Et ceci pour les 4 prochaines rencontres disputées à domicile, c'est-à-dire en gros pour les 8 prochaines journées.
Est-ce qu'ils seront privés de dessert également?
C'est ce qu'on va voir. Parce que là, l'ordre public a pour l'instant servi un peu à tout. C'est-à-dire là, au nom de l'ordre public, on ferme la tribune. Mais au nom de l'ordre public, on a fait soi-disant terminer ce match. Et c'était quand même quelque chose d'étrange. D'abord sur l'attitude des supporters comme ça, très présents, très agressifs, qui sont rentrés sur le terrain et tout. Gilles, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous qui, pendant un moment, avez d'ailleurs observé à la loupe des hooligans anglais. Alors, je sais pas si hooligans et ultra, ça se compare, mais...
Non, alors c'est un peu différent, mais j'avais infiltré le club de Millwall, qui était à l'époque une terreur. J'avais infiltré, c'est-à-dire qu'ils jouaient dans les docks de Londres avant leur rénovation, et eux, ils prenaient le train, ils cassaient tout, ils tapaient sur les gens. Alors, moi, je précise quand je dis ça, que je n'ai pas participer à une action violente, mais néanmoins j'en ai vu sous mes yeux.
Comme j'étais infiltré
pendant de longues semaines, je faisais entre guillemets, je faisais semblant d'être avec eux, mais je n'ai jamais tapé personne. Après, j'ai assisté à la manière dont la police anglaise les a neutralisés en les infiltrant également, et de manière là nettement plus professionnelle, et au procès. Et c'est vrai que il y a une différence entre ultra et hooliganisme. Eux, ils voulaient casser, ils voulaient détruire. Alors que le phénomène ultra, c'est un soutien au club. Mm-hmm. C'est une manière de manifester son supportariat, parfois de manière véhémente.
Fanatisme.
Ça doit rester du supportariat. Et là, on est à la frontière. On est dans une zone grise. On a des ultras qui agressent des joueurs, parce qu'il peut y avoir une agression, une bouteille, ça peut faire mal. Donc, il faut faire attention. Ça a fait mal. Il faut faire attention parce que ça pourrait déboucher sur des actions extrêmement graves qu'on a vues lors de matchs européens en France. Il faut pas que ça redevienne ça. Et il faut que l'action publique, parce qu'en Angleterre, ils ont éradiqué le hooliganisme qui avait presque tué leur football grâce à l'action publique. Mm-hmm. Il faut que l'action publique, là, s'en mêle. Et il faut vraiment qu'il y ait des sanctions à la hauteur de l'indignité nationale que cela provoque.
La différence, Gilles, c'est que quand tu as infiltré les hooligans, alors tu me parles de Millwall qui est en bisbille avec essentiellement West Ham, oui. Essentiellement West Ham, mais le phénomène hooligan était très généralisé, c'était un peu contre toutes les équipes.
Oui, avec le drame du Ezel qui a été quand même le point d'orgue.
Les supporters de Nice, en l'occurrence, oui, ils envahissent pas la pelouse quand ils jouent Nantes, Lorient ou Lens.
Bien sûr.
C'était contre Marseille. C'est-à-dire que si tu prends les images, les mecs qui sont armés.
Oui, mais c'est pas plus excusable.
Non, c'est pas plus excusable, mais si vous me laissez finir, vous m'entendrez dire que pour le coup, c'est une action qui est prémédité. C'est le caractère prémédité, c'est ça. On a fait rentrer des armes avec la complicité de gens du club, que ce soit les agents de sécurité,
les bouteilles.
Les bouteilles, les bâtons, tout ce que vous voulez, tout ce qui peut servir. Non, mais c'est un guet-apens. La différence, c'est que ce qui s'est passé contre Marseille, c'est un guet-apens.
Ben, le hooliganisme aussi, et dans d'autres stades en France.
Oui, mais le hooliganisme, c'était un truc généralisé. Quand tu parles de Millwall, on se donnait rendez-vous, on allait jouer à Manchester, on donnait rendez-vous aux Ligue 1 de Manchester, on allait se taper dessus. La semaine d'après, on allait jouer à Arsenal.
Nice,
c'est pas la même chose, parce que c'est pas contre toutes les équipes. Ce qui s'est passé contre Marseille, c'était un guet-apens.
En France aussi, c'est organisé, en France, dans toutes les équipes, ou beaucoup d'équipes, c'est organisé tout ce qui est fumigène, tout ce qui est laissé entrer les choses.
Entre des fumigènes et envahir la pousse par les tabasser des mecs,
les services de sécurité, les dirigeants des clubs ne sont pas clairs parce que ils pactisent avec le diable.
Oui, mais d'ailleurs, il faut pas vendre son âme au diable. Le président du club de Nice qui allait comme ça faire copain-copain avec les responsables de cette tribune dans la folie de dimanche soir. Non, mais c'était quand même un peu, ça paraissait presque malsain parce qu'il allait et il revenait en disant mais ils m'ont promis que maintenant ça allait bien se terminer.
Parce qu'il a peur qu'on lui fracasse sa voiture ou qu'on aille chez lui le soir, parce que Nice, c'est pas très très grand. Ils savent très bien où est-ce qu'ils habitent, le président Rivère. Et c'est pour ça. Et en plus, c'est un président délégué. Il est salarié. Il a pas non plus envie de perdre son poste.
Désormais, il est plus propriétaire. Tout cas, demain, la LFP se réunira avec les dirigeants des deux clubs pour finalement décider de deux choses. Parce que les invectives continuent. On a vu ces jours-ci. Alors maintenant, c'est les maires de chaque ville qui défendent leur club.
Vous avez lu l'interview de Rivère et puis de Fournier ce matin dans l'équipe.
Oui.
Mais ces gens-là doivent être licenciés.
Bien sûr.
En fait.
Donc là, la LFP, demain, elle devra décider de sanctionner, et qui sanctionner, si elle sanctionne Nice pour les débordements, ce qui devrait avoir lieu, mais aussi peut-être les acteurs du jeu, et ça, on verra si Dimitrio Payet aurait dû ou pas répondre, et puis décider du sort de la rencontre. Mm-hmm. Est-ce qu'il va falloir la rejouer ou quoi? On va écouter, alors nous, on n'écoute pas River ou Fournier, on écoute le nouveau, d'ailleurs, directeur de la com de l'OM, un confrère de France 2, il est tout de suite dans le bain du foot. Jacques Cardoz, il s'est exprimé donc au sujet de la sanction sportive.
S'il faut rejouer ce match en terrain neutre, par exemple, puisque j'ai lu que c'était une des hypothèses avancées, bien sûr que l'Olympique de Marseille s'y pliera. Nous, on a, dès le début, dès les premières secondes du jeu, fait remarquer en tribune présidentielle qu'il y avait des jets de bouteilles et que c'était inacceptable. On en a dénombré au moins une cinquantaine. Ensuite, à la 75e minute de jeu, les discussions sont devenues plus vives. Et à ce moment-là, l'épouse de M. River, le président de l'OGC Nice, a agrippé mon président, Pablo Longoria, par le bras. Tout ça, c'est insensé. Pablo est quelqu'un de respectueux, d'élégant. Jamais il n'a eu un mot déplacé à l'encontre de quiconque. Et vous pouvez demander à José Cobos, qui est adjoint à la mairie de Nice et qui est un ancien joueur de Nice, et qui était là et qui était témoin et qui a fait en sorte que chacun puisse retrouver le calme. Mais évidemment que ça n'est pas digne. Tout ce qui s'est passé est absolument incroyable.
Avant qu'on évoque d'éventuelles solutions qui pourraient être intéressantes, François, on en a parlé en Espagne, par exemple, de ce qui s'est passé en Ligue 1 dimanche soir.
Non seulement en Espagne, mais aussi dans toute l'Amérique latine, parce que Jorge Sampaoli, qui est l'entraîneur de l'OM, est argentin, c'est une légende là-bas. Et bien sûr qu'on en a parlé. Entre Messi, Mbappé, Neymar qui va faire son retour et OMS.
Mais c'était pas sur la pelouse. Hein.
La France, là, on est bien. Là, on est dans le focus mondial.
Au cœur du réacteur.
Exactement.
Alors, messieurs, moi, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous attendez, par exemple, Gilles, de la LFP et des décisions? Est-ce qu'elle a assez d'autorité pour finalement prendre des décisions qui vont faire date? Parce qu'on a entendu hier Oksana Maracineanu, la ministre des Sports. Le politique pousse aussi pour qu'il y ait une véritable sanction.
Le politique et l'État, hein, puisque c'est quand même le préfet qui a organisé cette gestion de crise. On peut la contester, mais c'est lui qui a pris les choses en main.
Oui, mais c'est parallèle. C'est parallèle.
Voilà. C'est parallèle. Mais c'est quand même, voilà, il y a une volonté étatique plus que gouvernementale. Moi, ce que j'attends de la Ligue, c'est des décisions fermes. On rejoue le match. On ne peut pas entériner un résultat comme ça, même si réglementairement, ça se discute. On peut pas entériner un match qui s'arrête comme ça. C'est impossible. On rejoue le match, pour moi, sur terrain neutre et à huis clos. Voilà. Ensuite, on sanctionne au cas par cas chacun des joueurs, tous les protagonistes, ils ont toutes les images, de l'entraîneur de l'OM au préparateur physique de l'OM, voire Galtier maintenant qui serait remis en cause. Chaque joueur, Alvaro, tous, au cas par cas, on sanctionne, on suspend. Et on évite, avec des sanctions très dures, que cela puisse se renouveler.
Naïm.
Sanctions financières à 6 chiffres pour Nice, retrait de points, moins 10, moins 15, on voit. Et puis après, au cas par cas sur les joueurs, sanctionner Payet, pour l'exemple, réglementairement, oui, parce qu'il y a eu le geste, maintenant qu'on fasse preuve de clémence à son égard, il s'est fait éclater une bouteille dessus. Qu'on sanctionne.
Ils avaient déjà pris lui, Mandanda voilà, et d'autres, 50
bouteilles. À la rigueur, l'adjoint de Sampaoli qui a été mettre une baigne yoga, lui, à la rigueur, je veux bien. Mais qu'on sanctionne Alvaro, pourquoi? Pour avoir fait un doigt d'honneur. Arrêtons d'être naïfs des doigts d'honneur de la 5e division de district à la Ligue des Champions.
Vous en avez. Il n'a pas le faire, Alvaro.
Oui, mais t'en as sur tous les matchs.
Il n'a pas le faire.
T'en as sur tous les matchs, François. À ce moment-là, faut sanctionner tous les joueurs à tous les matchs. Parce qu'ils le font tous. Ils le font tous, les mecs.
Le retrait de points à Nice sera très compliqué, hein. C'est un souhait, mais ça sera très compliqué parce qu'encore une fois, comme le préfet a organisé le fait que le match puisse se terminer. Ah oui, mais c'est compliqué. La Ligue, alors, qui irait contre l'État, cette Ligue-là, qui est d'un courage très moyen pour moi, je la vois pas.
Qui est très faible, qui manque d'autorité, clairement.
Exactement, je ne la vois pas aller en but contre l'État.
Que diriez-vous, François ?
Non, moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Gilles, cas par cas pour les joueurs, Payet, oui, Alvaro, bien sûr, parce que moi j'ai parlé aussi avec des gens à Nice, hein. Payet, le public de Nice aurait pu comprendre ce geste, les fous, la tribune populaire. Bon. Par contre, le fait qu'Alvaro vienne, qui provoque comme ça, ça les a rendus malades.
Mais lui aussi s'est pris des bouteilles pendant le match.
Non, mais bon, là, en l'occurrence, c'était Payet qui s'est reçu un truc dessus. Bon. On rejoue le match, terrain neutre. Et on voit ce que ça donne. Maintenant, et les pouvoirs publics prennent le relais. Ils essaient de faire. On a toutes les images. On sait le type là qui est en photo partout avec son t-shirt qui avait
des
confédérés là. Voilà. Mais il y a pas que lui. Il y a pas que lui.
On a un suspense parce qu'on aura la réponse demain. Enfin, demain
début de réponse parce qu'il y aura instruction.
Mais ils vont peut-être être poussés là aussi par d'autres instances pour aller plus vite. Allez, on continue et cette fois-ci on descend sur le terrain. Alors, on reste à Nice quand même. A dit oui. Alors pas à Catherine Ringer, hein, d'Erika Mitsuko, vous avez reconnu, mais il a dit oui à Nice et à Christophe Galtier. Le natif de Sète s'était jusqu'à présent épanoui dans l'équipe de Montpellier.
Et deux buts inscrits avec le corner de Savagnier. Un ballon d'Ossé et le troisième but, il est signé. Andy Delors, il est récompensé et joie mesurée, hein, d'Andy Delors. Joie pleine de sobriété.
Ça ne pardonne pas.
Alors Andy Delors vient d'inscrire son 40e but sous le maillot de Montpellier en Ligue 1, en 95 matchs désormais.
L'ovation du stade de la Mosson, c'était Montpellier-Lorient. 40e but donc de Andy Delors sous ses couleurs. Et le voilà parti. Il y avait même donné le brassard de capitaine, hein, l'entraîneur. Le voilà parti pour Nice. Alors que Marseille aussi lui faisait un peu les yeux doux, décidément. Hein, ces deux clubs, on n'arrête pas d'en parler. Naïm Meunier, est-ce que c'est un bon choix pour Andy Delors?
Oui, c'est un bon choix.
Il a 29 ans.
Nice est un projet avec l'arrivée d'Ineos, avec l'arrivée de Radcliffe, qui se veut être ambitieux, qui monte une équipe.
Un Anglais, donc c'est pas des capitaux qui viennent du golf ou qui viennent d'Asie.
Il y a un peu d'argent quand même.
C'est quelqu'un qui connaît le foot en plus.
C'est quelqu'un qui connaît le sport en général, parce qu'il a réussi aussi dans le cyclisme. Donc voilà. C'est un très bon choix, c'est un projet qui est ambitieux, il y a une équipe qui arrive, il y a un grand entraîneur qui arrive, parce que quand vous débauchez l'entraîneur champion de France, c'est jamais anodin. Donc c'est un très bon choix. Ce qui est bien avec avec Andy Delors, c'est pas un grand buteur Andy Delors, mais par contre c'est quelqu'un qui sait bien jouer au foot. Il sait faire jouer les autres, il met la pression sur l'adversaire, c'est un bon passeur. Et si vous prenez le profil des joueurs qu'il y a dans son secteur, Guiri, Boudaoui, Dolberg, Kluivert, c'est des gamins la plupart, la grande majorité. Donc lui, il va amener de l'expérience, il sait faire jouer au foot, il va marquer des buts, mais il est surtout là pour encadrer les autres. Et à Nice, avec un projet ambitieux, avec un peu de moyens financiers, avec un entraîneur comme Galtier, je pense que les deux se sont plutôt pas mal trouvés.
François David, c'est le bon effectif, parce que c'est un effectif finalement ambitieux. Nice, l'année dernière, c'était un peu en demi-teinte.
Moi, j'aurais bien aimé le voir à l'OM quand même, Delors, parce qu'il avait tout pour réussir à Marseille. Mais bon, il va à Nice, qui est pas loin de Marseille. C'est très bon projet.
Ouais, mais ça sera pas le même maillot.
Pas le même maillot, très bon projet avec un super coach.
Il rêve d'Europe en fait.
Lui,
le champion d'Afrique, parce que rappelons-le, il est international algérien. Il a gagné la dernière coupe d'Afrique, la dernière CAN, et ils sont déjà favoris pour la prochaine. Donc.
Il a le caractère pour s'imposer, pour marquer des buts, pour montrer le chemin. Il complémentaire.
Il s'était pas imposé au Mexique, vous vous souvenez. Il avait essayé d'aller jouer avec Gignac. Ça s'est pas aussi bien passé.
Une carrière très compliquée. Peu lisible, Andy Delors.
Mais je pense qu'il a tout pour réussir. En plus, je trouve sur le terrain, il va être complémentaire de Gouré et Dolberg, qui sont plus buteurs,
C'est pas un grand buteur, si tu regardes ses stats, c'est pas un type qui score de fou, mais très bon joueur de foot.
58 buts en 94 matchs, mais 18 passes décisives. Donc c'est quand
et
même
encore, il a marqué avec Montpellier. Hein, parce qu'il y a des clubs où il a joué, où il a été important, à Tours et ainsi de suite, Toulouse même, où il marquait beaucoup moins.
Après, je trouve que c'est un problème quand même pour le football français, des équipes comme Montpellier qui sont données. Honnêtes équipes de Ligue 1 ne peuvent plus garder leurs bons joueurs. Ils ont besoin des 10 millions, ils ont besoin de le transférer. Et lui, il avait tellement dit « je veux rester à Montpellier » qu'il s'est trop avancé. Je trouve que c'est une histoire d'amour qui se termine mal. J'ai un petit goût d'amertume, sans doute.
Alors on aurait dû mettre l'autre chanson des Mitsuko. Alors.
Exactement. Exactement. Mais je pense que... ça résonne pour moi comme un échec du football français tel que je l'aime, où tout le monde a les moyens de lutter. Ben ça, c'est fini.
Ça fait longtemps que tout le monde n'a plus les moyens de lutter, Gilles.
Oui, mais il faut se battre pour que tout le monde puisse lutter de nouveau.
Mais
Montpellier, c'est un bon club.
On peut quand même se féliciter, Gilles, que l'argent, il reste en France.
Oui.
Ça va être un transfert pour
Et le joueur aussi.
Pour Montpellier. Ouais. Et Montpellier, vous inquiétez pas pour eux. Hein. Ils ont déjà... Ils vont prendre Valère Germain en remplacement de Delors. Ils vont perdre Laborde. Je pense qu'ils vont se mettre sur un autre attaquant. Et
ils ont 6 jours, ils vont faire tout ça.
Ouais. Et je peux même vous dire, alors c'est ça mon info.
Allez-y.
C'est ça mon info. Le marché entre Nice et Montpellier, il est pas fini. Il y a un autre joueur, ce qu'on m'a dit, plutôt bien informé, qui va aller de Montpellier à Nice. Et dans le style battant aussi.
Dans le même secteur de jeu ou pas?
Non, au milieu de terrain, avec un passé avec l'Olympique Lyonnais. Je vous laisse trouver le joueur.
Alors Naïm, la réponse.
Qui a joué, et voilà, et je pense, Montpellier a déjà son remplaçant, et on le connaît en Ligue 1. Et c'est un super joueur aussi. Donc je m'en fais pas pour Montpellier, mais effectivement, la connexion entre Nice et Montpellier est pas loin de se tarir dans les prochains jours. Voilà.
Il était c'est une, ces
c'est
derniers
une,
jours.
C'est une info vraiment très, très, très sérieuse.
Oui. Très sérieux.
D'accord.
Un ancien joueur de l'OL.
On vérifiera les prochains jours.
Voilà.
D'accord. À Lyon aussi, on continue à recruter et ça paraissait urgent après le Brésilien Emerson venu de Chelsea. Hier, nouvel arrivant aussi de Première Ligue, de Liverpool cette fois. Il s'agit de l'international suisse Shaqiri.
Je me sens très fier et très heureux parce que j'ai enfin signé mon contrat et maintenant je suis officiellement joueur de l'Olympique Lyonnais. J'ai vraiment hâte de commencer avec l'équipe et de découvrir tout le club. Le stade est fantastique. Quand je l'ai vu, je l'ai vraiment trouvé incroyable. Je me le suis imaginé totalement rempli. J'espère que je vais pouvoir marquer ici devant ce public.
Score in front of this amazing fans. Shaqiri. Good effort. What a goal. What a goal, Sherry Shaqiri. You do not keep those out. The Swiss, where's the smiles?
Stoke City have the lead.
Pour ce blason, frappé du lion, des côtés toujours nous chanterons. Pour les canuts, jamais vaincus.
L'hymne, c'est un Suisse, c'était pas déjà.
C'est en plus.
L'hymne des Lyonnais. Hein. Je corrige tout de suite l'Italien Emerson et non pas le Brésilien. Enfin bon, il est passé par le Brésil, il est venu du Brésil même.
Il est brésilien, international.
Devenu,
et voilà.
Mais surtout devenu champion d'Europe. Et
en
ça,
plus.
Quand on est brésilien, c'est pas mal. Gilles, on l'entendait, la Shaqiri, faire sa déclaration d'amour, évidemment, à son nouveau club. Mais va-t-il allumer la lumière dans le beau stade de l'Olympique Lyonnais?
Pas du tout. Oh, mais j'adore ce joueur, c'est un très bon joueur avec sa sélection nationale suisse. Mais en club, ça ne va pas. À Liverpool, il jouait pas. C'est un joueur qui
ne laissait pas jouer. Klopp, il le faisait rentrer.
Klopp, il fait quand même jouer les meilleurs. Oui. S'il a des bons joueurs dans son effectif, il va pas les laisser sur le banc. Le problème de Shaqiri, encore une fois. Oui, mais je l'adore. Mais le problème, c'est qu'il est trop intermittent. Quand ça va pas, il a une petite tendance à être tranquille dans son coin. Il s'exile sur son côté droit, un petit embonpoint, et on se laisse vivre. Il va falloir qu'il se remue quand même, Shaqiri. Je crois pas que c'est un joueur qui va révolutionner Lyon ni le jeu de l'OL. Non. C'est un bon joueur d'appoint, mais moi j'ai un doute quand même sur la motivation.
Il va pas révolutionner le jeu de l'OL parce que c'est pas non plus un immense footballeur, mais je trouve que sur l'état d'esprit, sur la grinta, sur le côté j'ai une stature, il a une stature qu'aucun joueur à Lyon n'a.
En sélection.
Non, je parle en club.
Bah, en sélection, club, il a pas ce
standing. Paqueta quand même, il est quand même un seul brésilien, il est titulaire.
Oui, effectivement, il y a Paqueta, mais enfin globalement, si tu prends les joueurs que tu as à Lyon aujourd'hui, tu en as pas qui ont le passé de Shaqiri, qui a côtoyé des grands clubs, des grands joueurs, les grandes compétitions.
Passé, mais son présent n'est pas tellement à la hauteur.
Non,
son
présent n'est pas à la hauteur. Et je suis d'accord avec toi pour dire qu'à Liverpool, il est barré par la concurrence, c'est certain. Mais je trouve qu'aujourd'hui, est-ce qu'un club comme Lyon, qui vient en plus de perdre de paille, récupérer un joueur comme Shaqiri, c'est avoir un atout supplémentaire. C'est un mec que t'as pas dans l'effectif, dans le jeu, dans l'état d'esprit, dans ce qu'il incarne. Quand t'es Lyon, tu peux pas te passer d'un joueur comme ça.
Moi, je suis partagé. Parce que je pense que c'est important pour la Ligue 1 d'avoir des noms comme Shaqiri, des noms reconnus, des mecs qui viennent de Liverpool, de la première ligue, c'est important pour l'OL. Maintenant, est-ce qu'il aura faim, comme disait Gilles? Et c'est toute la question aussi de Shaqiri.
Mais faim de quoi?
Il arrive avec le plus gros salaire.
Avec le plus gros salaire, est-ce qu'il aura envie de se bouger? Et j'ai la même question pour Emerson Palmieri. Parce que
L'Italien,
parce qu'il a été proposé à Porto. Pour remplacer, ils avaient besoin aussi d'un latéral gauche. Il a été refusé par Porto parce qu'ils ont considéré qu'il n'avait plus faim. Champion d'Europe avec Chelsea, champion d'Europe avec l'Italie, il serait pas bougé et le staff technique n'aurait pas pu l'envoyer sur le banc de touche à cause de son statut. Donc, pour moi, ça prend de motivation et Peter Bosch, il va devoir trouver les mots pour les motiver, les deux.
Ouais, ben, Peter Bosch, il a intérêt à secouer son équipe parce qu'elle est 16e de Ligue 1, 2 nuls et 1 défaite en 3 matchs. C'est pas les débuts du FC Séville côté de l'Espagne. Habitué des mauvais départs d'ailleurs, hein, cette équipe. Alors avant, il y avait Depay qui rattrapait, mais là, il est plus là. En tout cas, les Monégasques, eux aussi, parlons-en un petit coup, parce qu'eux, ils sont même pas 16e, ils sont 19e. C'est pas terrible. Ils sont avant-derniers du championnat, certes, après trois matchs, un seul point. Demain soir, l'heure de vérité. Il faudra chercher en Ukraine la qualification en Ligue des Champions, même après une défaite 1-0 à Louis II. Alors, on l'a raconté l'autre jour et il faut le rappeler. Les buts marqués à l'extérieur ne comptant plus double. S'ils marquent tout de suite, eh bien, évidemment, ça fera 1-1 et là, tout est à refaire. N'empêche que l'entraîneur Niko Kovac, lui, veut y croire.
Il faut que l'on soit concentré, il faut que l'on gagne, clairement c'est notre objectif demain. Il y a deux types d'équipes qu'on a vu depuis le début de la saison, deux visages de l'AS Monaco. Celui du championnat et celui qui est différent lors des qualifications en Champions League. Demain, je suis certain que le visage que l'on affichera sera le visage européen et celui de la saison dernière.
Gilles, pourquoi on le voit pas depuis le début de saison, le visage de l'année dernière? Cette équipe, quand même, elle avait terminé en boulet de canon, elle avait raté les deux premières places alors qu'on la voyait battre les grosses équipes et tout. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le problème, c'est Monaco, c'est l'instabilité, c'est ce trading, alors qu'il n'en est plus un, mais quand même avec des mouvements. Vous rachetez des joueurs, vous aviez un bon milieu de terrain à deux, vous le disloquez. Où va-t-on? Est-ce que l'entraîneur n'est pas soumis à des choix financiers qui le dépassent lui? Moi, j'ai l'impression de ça. C'est pas vraiment une équipe,
c'est
une sorte
nouveau.
De
mots alors.
Exactement, c'est une sorte de galaxie cosmopolite où on prend des joueurs, on en revend d'autres. Et puis là, on a créé de l'instabilité alors qu'il fallait la stabilité. Et du coup, la saison, elle peut s'arrêter là. Hein. Et là, c'est très mal parti parce que 0-1, deux buts d'écart à Donetsk, avec De Zerbik, un grand tacticien, avec Donetsk qui est au complet. Là, j'ai suivi, ils ont gagné 3-0 à Odessa sans trembler du tout. Le Shakhtar, c'est pas n'importe quoi, franchement.
Non, et en plus, eux, ils sont en pleine saison, ils sont pas en démarrage.
Et Monaco n'arrive pas à garder un effectif plus de deux saisons et une stabilité.
Ne veut pas parce que le modèle club, c'est de vendre.
Gilles, il n'y a pas tellement de changements par rapport à l'année dernière. T'as changé le gardien, et puis quoi?
Au milieu de terrain,
Fofana, il est là, c'est juste qu'il le fait plus jouer parce qu'il trouve qu'il est plus efficace, mais il est pas parti.
Mais
au final, qu'est-ce que t'as comme vrai changement? Le gardien de but, pour le reste, c'est la même chose. Le souci, c'est que...
Oui, mais il disloque son milieu de terrain parce qu'on doit lui dire, mets tel joueur.
Mais on lui dit pas, mets tel joueur. Si Fofana est pas au niveau. Mais il va pas mettre un joueur qu'il estime ne pas être au niveau.
Il est au niveau, il lui donne plus sa chance.
Naïm, selon vous, pourquoi on voit pas le visage de Monaco de la fin de saison l'année dernière?
D'abord parce que les deux attaquants phares, Ben Yedder et Voland, ont fait l'Euro, qu'ils ont une préparation tronquée, que finalement vous vous retrouvez quand même avec des joueurs qui sont pas au même niveau physique, que vous savez changer le gardien de but et Nubel, que le compte est parti à l'Atlético. Et je suis pas sûr que Nubel, à l'heure où on se parle en tout cas, soit le gardien d'une équipe apte à jouer la Ligue des Champions. Et puis que vous avez ce milieu de terrain qui tournait pas mal, Fofana, Tchouaméni. Kovac, il a décidé que Jean-Lucas était meilleur que Fofana. Mais peut-être qu'il a raison. Donc quand vous incorporez un nouveau joueur au milieu, ben, faut le temps que ça prenne. Laissez les joueurs se mettre
mais
au niveau physique.
Alors qu'on a 3 matchs de championnat et qu'on sait qu'on a ces matchs barrages couperets.
Mais alors, qu'est-ce que vous proposez qu'on mette un joueur capable de...
C'était l'élément fort, ce milieu à deux complémentaire.
Je suis d'accord, mais si Fofana,
on lui dit, il faut qu'il joue.
Mais tu sais, l'année où ils sont champions de France, avec la défense Jemerson Glick, c'est une super charnière centrale. L'année qui suit, tu les as vus, les deux? S'ils sont plus au niveau, bah, tu changes. En fait, ça, c'est le football. Fofana, il fait une super saison l'année dernière.
Mais si aujourd'hui, il estime qu'il est... Fofana a perdu son football durant l'été.
Non, mais moi, ce qui m'inquiète, moi, c'est le rythme physique. J'ai l'impression de voir toujours le même rythme avec Monaco. Monotone. Ils n'arrivent pas à accélérer comme l'an passé. Ils avaient une accélération de Golovin. Passe à Ben Yedder, Voland qui marquait. Là, c'est vous. Alors, je sais pas si la préparation physique l'a pris en compte
Golovin
ce match-là. Golovin
aussi, il était à l'Euro en plus.
Ouais, mais il est sorti vite.
Maripane, il était avec le Chili à la Copa América.
Ouais, il y a eu Maripane. Badiachil a fait les JO et puis il a fait l'Euro Espoir.
Donc moi, je ne sais pas si la préparation physique, elle a été adaptée pour ce match-là ou à prévision de long terme. Mais là,
en plus, si tu prends, il y a deux équipes. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait le distinguo entre ceux qui jouent la Ligue des Champions et ceux qui jouent le championnat. Vous avez 5-6 changements à chaque fois.
Il nous parle de deux visages, d'ailleurs.
Oui, pour le coup, oui, c'est vrai, parce qu'il fait tourner énormément.
Énormément, oui.
Mais quand Gilles dit la saison va s'arrêter là, non, la saison va pas s'arrêter là. S'ils se qualifient pas en Ligue des Champions, ils iront en Ligue Europa et puis ils feront une saison comme l'année dernière. Faut pas oublier que l'année dernière, la première partie de saison est pas dingue, puis finalement ils font une deuxième partie de saison tonitruante.
Oui,
donc ça va pas s'arrêter là.
On imaginait que là ils étaient partis.
Mais on est évidemment déçus parce qu'on aimerait avoir 3 clubs français en Ligue des Champions.
Peut-être qu'on va avoir 3 clubs. Peut-être, oui. Peut-être.
On ne sait pas gérer ce barrage de Ligue des Champions parce que en fait, avec notre championnat qui est assez difficile, si on fait une préparation en l'anticipant et en commençant à fond sur ce barrage à la fin de l'année civile, c'est-à-dire vers octobre, novembre, décembre, vous commencez à payer ça et vous craquez en championnat. Donc on ne sait pas le gérer. Il y a des équipes qui jouent leur saison sur ce match et qui commencent très tôt pour le réussir.
La France
et
ne sait pas gérer les coupes d'Europe.
Ouais, mais c'est un peu hybride. Ouais, mais sur ce match-là, on a vraiment du mal. Et là, je pense quand même que Monaco va avoir d'extrêmes difficultés. 0-1, c'est un très mauvais score. Ouais.
François.
Surtout que le Shakhtar, l'an passé, moi, je les ai vus danser sur le terrain du Real Madrid. C'est une super équipe. Ils avaient un groupe très difficile. Mönchengladbach, Shakhtar, le Real Madrid.
L'Inter.
Mais ils n'étaient pas ridicules. C'est une équipe de Ligue des Champions.
Il faut les faire douter mentalement. C'est la seule solution. Après, ils peuvent s'effondrer. Et là, comme ils sont arrimés sur le 0-1, leur victoire à l'aller, ça va être très difficile de les faire douter.
C'est une équipe qui sort régulièrement des poules de Ligue des Champions. S'ils ont détrôné le Dynamo Kiev depuis 10-15 ans, c'est pas par hasard. C'est une vraie belle équipe avec tous les Brésiliens qui vont chercher.
Et malgré tout ce qui est arrivé.
Et en plus, tout ce qui leur arrive, c'est une très bonne équipe. Et je suis d'accord avec Gilles pour dire que c'est difficile et que ligne par ligne, le Shakhtar, il a rien envie à Monaco.
Non, mais d'ailleurs, on disait que ça aurait été le pire des adversaires pour Monaco et ils sont tombés sur le pire.
De toute façon, le Shakhtar Donetsk, je pense que mis à part le PSG, c'est un des pires tirages pour tous les clubs français. Hein. Ça, c'est clair et net. Il y a que le PSG qui peut résister.
Bon, ben, on verra ça demain soir, le sort de Monaco et c'est important parce que dès le lendemain il y aura le tirage au sort, ça sera jeudi en fin d'après-midi, tirage au sort des groupes des poules comme on dit, de la Ligue des Champions Et aussi remise du trophée The Best.
En plus, et puis il n'y a pas la liste de Deschamps, je dis, en plus.
Et puis si, négociation Real-PSG lors du tirage.
Vous croyez ?
Bah, c'est sûr, c'est le dernier jour, l'avant-dernier, donc ça va y aller fort.
Tu prends de l'oseille, toi, là-dessus ?
Jamais, hélas.
Prends des infos, c'est déjà pas mal.
Il a été en vacances à Londres, il a négocié des trucs.
Je préfère.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, François-David, d'être venu durant l'été.
Merci.
Est-ce que tu reviendras physiquement ?
Oui. Là, je repars déjà avant vendredi, mais promis, je reviens.
Bon, ben alors, on vous attend dans le studio de Radio Foot. Merci à tous et à demain.
Priorité santé.